certaines conjonctions de Jupiter, certaines conjonctions de Jupiter, surtout aux planètes de l'inconscient collectif, c'est-à-dire de la collectivité psychique de laquelle relève notre totalité psychique individuelle. Je prendrai certaines conjonctions. Je vais prendre les oppositions de Jupiter, et surtout certaines oppositions. Je vais prendre certains carrés de Jupiter. Et aussi, la position de Jupiter lorsque cette planète se trouve à la pointe d'une maison d'un thème, dont elle n'est pas le maître. Donc un Jupiter qui serait à la pointe du Capricorne. Donc sous le régime de Saturne, ou alors à la pointe des Gémeaux, donc sous le régime de Mercure. Ce que peut faire Jupiter à la pointe d'une maison qui n'est pas la sienne. Je vous donne comme ça, grosso modo, un petit aperçu de ce que je voudrais couvrir ce soir. Mais, et j'aimerais vous dire quelque chose sur le Sagittaire lui-même. Le Sagittaire, c'est le signe dont Jupiter a la maîtrise. Par conséquent, la pointe de maison qui a le signe du Sagittaire, ou l'un des degrés de ce signe, à la pointe de cette maison va être régie par Jupiter, c'est obligatoire, c'est inévitable et c'est exclusif. Bon, alors j'aimerais prendre le Sagittaire dans les 12 maisons. J'ai donné la semaine dernière, la dernière fois, il y a un mois, Jupiter dans les 12 maisons. Je ne l'ai pas touché réellement dans les 4 éléments, parce que c'est encore autre chose, et nous ne pouvons pas trop en dire, on ne peut pas autant tout couvrir. J'aimerais surtout mettre en relief certaines choses qui ne sont pas aisément trouvées dans les manuels, dans les livres, peut-être même dans certains cours, et qui se rencontrent pourtant dans certains cas, et souvent sont complexes. Avant de se faire, j'attire votre attention sur ce cercle, cette croix, la position du soleil à l'ascendant. Ceci, ça va être une introduction maintenant de nouveau au principe de Jupiter. J'en ai parlé à personne et surtout à ceux qui n'étaient pas là aux deux dernières conférences que le principe jupitérien implique toujours la recherche d'un tout ou d'un ensemble. Mais plus exactement, c'est la recherche du holos en grec, c'est-à-dire le tout. Le Jupiter en nous-mêmes, c'est cette puissance qui nous impose, donc nous donne le moyen, de sentir que, et de voir que tout ce qui est devant nous n'est pas autre chose que la partie d'un tout. Et que cet objet devant nous, quel qu'il soit, une idée, une personne, une chose, n'est pas un tout en soi. Le Gémeaux, par exemple, l'objet devant lui, c'est un tout en soi. Pour Mars, l'objet devant lui, c'est un tout en soi. Pour Vénus, ça l'est aussi, très souvent. Mais pour Jupiter, jamais. C'est le génie en nous qui nous parle, quelquefois obscurément, mais toujours, puisqu'il est en nous de la capacité d'enthousiasme. Quand vous sentez vibrer en vous une corde dite d'enthousiasme, et par conséquent, synonyme d'admiration, pour une chose, pour une idée, pour une personne, soyez certain que c'est le principe de Jupiter qui va fonctionner dans le style propre à votre Jupiter, par maison, par signe et par aspect, et que cette puissance jupitérienne de votre nature, visant toujours à monter à ce qui est plus grand que vous, et à ce qui est plus grand que l'équation ou l'objet de l'équation devant vous, ou cette équation étant une personne par rapport à la relation personnelle, et par Jupiter transposée à un ensemble, à un tout, beaucoup plus général, beaucoup plus grand que les deux pôles de la relation, dont vous êtes donc l'un, le sentiment étant que vous faites ensemble partie d'un plus grand tout. C'est ça, quand ceci est sourdement même reconnu par la personne, cette personne connaît une qualité qui s'appelle l'enthousiasme. à nous. Ça n'est pas contraire à l'amour, grand Dieu, mais c'est quelque chose, disons le mot, qui est plus grand que l'amour. Cela revient un peu à l'usage courant qui nous prouve que on ne peut pas vraiment aimer les gens qu'on n'admire pas ou qui nous inspirent aucun enthousiasme. On peut avoir de l'enthousiasme sans nécessairement aimer d'une façon personnelle la personne. Cette idée de Jupiter, dites-le-vous bien maintenant, une fois pour toutes, parce que sous cette forme-là, elle est rarement inscrite dans nos manuels, même dans nos manuels anglais. C'est toujours que vous êtes devant la sollicitation de passer du détail au général et de passer de la partie à son propre tout. Or, la conception du tout et de la partie, cette façon d'envisager les hiérarchies, les stades, les plans de la vie, tous les plans de la vie, quel qu'il soit, cette façon de le présenter, une chose n'est que la partie d'un tout, et souvent ce tout est lui-même que la partie d'un plus grand tout. Cette conception holoïstique qui a été mise extrêmement en vigueur, en valeur, par le grand général anglais, philosophe Knox de l'Afrique du Sud, dans son admirable livre sur le holisme, le grec holos qui veut dire le tout, l'entier, et en anglais on appelle ça the whole, W-H-O-L-E, the philosophy of wholeness, la philosophie du tout, il n'y a pas d'expression française autre, elle est absolument indispensable à la conception intellectuelle de l'astrologie. Il y a des choses en astrologie qu'on ne saisira jamais sans se rendre compte qu'il faut procéder de cette façon-là. Et ici, je le mets immédiatement au tableau noir comme un point de départ explicatif de tout le programme de l'astrologie lui-même, ce programme lui-même, et spécifiquement maintenant pour Jupiter. Car vous avez le Soleil, vous avez la Croix, vous avez la Lune. Or, le monde qui est le tout, c'est ce monde qui est représenté par le cercle. Un cercle est toujours un tout. Pourquoi est-ce que la minute est une somme de secondes, et pourtant la minute est plus que la somme de ces secondes qui font par addition la minute? Pourquoi la minute est-elle plus que la somme des 59 secondes, 60 secondes? Parce que la minute est elle-même immédiatement une partie seulement d'un plus grand tout qui est l'heure faite de 60 minutes. Et c'est ce fait seul qui permet ce fameux axiome philosophique, mathématique, que la somme des parties est moins que la somme est toujours plus que l'addition des parties. Alors ici, le monde qui est le tout est représenté par le cercle. Le cercle, c'est la Lune. Dans le thème, le cercle qui entoure la Croix, mais c'est la Lune, c'est le monde de ce tout. La Lune nous donne le tout. Le Soleil, dans le thème, et le voilà ici, et le voilà là, il représente la partie du tout. C'est lui qui est la partie du tout. Mais du moment qu'il n'est que la partie, il y a le reste. Si votre Soleil pouvait se confondre avec le tout, il ne serait plus partie du tout, il ne serait plus là par rapport à ça, il serait le tout en une seule chose et il serait le Soleil. À ce moment-là, nous n'aurions même plus besoin de Jupiter. Car Jupiter, c'est le principe actif le plus formidable pour permettre que le Soleil qui est parti devienne graduellement, par le cheminement de la Croix de ces planètes, devienne finalement
le tout qui est représenté ici par la Lune. La croix est toujours des planètes du Soleil. Alors, nous disons, partie du tout, le Soleil. La part étant le Soleil, le reste, mais le reste c'est tout ça, le reste c'est tout ça, le reste est représenté précisément par la croix du thème. C'est ça le reste. Le Soleil, la partie, et le reste c'est la croix. Et c'est précisément par ce cheminement de la croix, qui est le cheminement de notre devenir, c'est précisément par ce devenir que graduellement la partie grandit et donc le reste diminue. Puis la partie grandit encore et le reste diminue et finalement la partie étant devenue identique au reste, il n'y a plus de reste. Il y a un nouveau tout. Cette opération qui est fondamentale, que représente tout simplement la croix, le soleil et le cercle, vous pouvez retrouver cette opération comme de juste sur tous les plans de la conscience lorsque vous verrez ces plans de très près. C'est une des grandes lois de la géométrie, une grande loi mathématique, cette loi du tout, de la partie et du reste. Pris dans un sens encore plus général, nous dirons que le Saint-Esprit, dans le concept trinitaire de la religion, le Saint-Esprit, mais ça représente précisément le reste, le Fils, c'est le Soleil, il est la partie, mais entre le présent qui est dans le temps et l'éternel qui représente le tout, il y a le cheminement de passer du temps à l'éternel. Or, qui remplit ce cheminement? Qui l'anime et qui le permet? Mais c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Songez à ceux d'entre vous qui ont eu le bonheur de faire l'expérience du Saint-Esprit. Ils l'ont fait souvent sans lui donner ce nom. Peu importe le nom. Quelques-uns d'entre vous ont certainement donné ce nom à cette expérience mystique unique dans leur vie. Je ne dis pas unique dans le sens qu'elle ne se répète pas, mais dont la nature est unique. Eh bien, quand ils cherchent à raisonner cette expérience et à se demander pourquoi elle a eu cette qualité unique, c'est précisément parce que la fonction de Jupiter allait à fond à ce moment-là. C'est que le mouvement en avant du Fils dans le Saint-Esprit et surtout le mouvement du Saint-Esprit sur le Fils et nous-mêmes se faisait à ce moment-là d'une façon d'apothéose. Voilà, j'ai fini avec ce diagramme et je crois qu'il doit rendre certaines choses très, très claires, très intelligente à plusieurs d'entre vous. Et maintenant, venons aux aspects de ce fameux Jupiter. Si vous comprenez que c'est la puissance qui va permettre à ce Soleil de porter et d'animer le cheminement à son ensemble, au tout, que c'est cette puissance-là, spécifiquement, qui est la puissance de la croissance, qui est la puissance qui va du détail au plus grand, au général, du particulier au général, de la partie au tout, que c'est toujours Jupiter qui est en cause. Alors, voyez votre Jupiter dans votre thème et appliquez cette notion-là, cette interprétation-là à votre Jupiter. Et vous verrez comme on dit en anglais, page, vous verrez comme cette interprétation-là vous rembourse richement de votre recherche. Parlons maintenant de Jupiter dans un aspect d'opposition. Alors, prenons maintenant quelques oppositions de Jupiter. Je ne vais pas dire toutes, parce qu'en somme, quand vous avez saisi la signification de l'opposition,
Il n'est pas bien malin de déchiffrer vous-même certaines oppositions, surtout celles des planètes mineures par rapport à Jupiter. Il est entendu, n'est-ce pas, que quand une planète est en opposition à une autre, c'est la planète majeure, la plus grande, autrement dit, qui doit dominer l'autre. Le principe de l'opposition, c'est évidemment, entre autres choses, le principe de synthèse. Où il y a opposition dans un thème, et je veux maintenant prendre l'opposition la plus particulière de Jupiter, qui est celle de Saturne. Opposition Jupiter-Saturne, et il y a pas mal de thèmes qui les ont. C'est une opposition très caractéristique, celle-là. Elle est très spéciale, elle n'est pas fréquente. L'opposition de Jupiter à Vénus, à Mars, à Mercure, mon Dieu, il y en a des quantités dans l'année, puisque Vénus va très vite en 225 jours, que Mercure va très vite lui-même, et Mars pas aussi assez, donc nous les avons fréquemment. Mais Jupiter-Saturne, c'est plus rare. Or, les deux planètes sont complémentaires, par nature. L'une, c'est le principe d'expansion, de procréation, d'engendrement, de création, de don, de soi. Saturne, c'est le principe de conservation. C'est le principe, c'est le pôle opposé. C'est le principe de la femme. C'est très bien l'enthousiasme, dit Saturne. Mais à quoi ça sert si on ne peut pas la capter et lui faire tirer un véhicule? Pendant la phase du philosophe Emerson en Amérique, il dit « Accrochez votre étoile à un chariot ». Eh bien, le chariot, l'accrochage au chariot, c'est Saturne. L'étoile, c'est Jupiter. Et vous voyez, le crochet qui accroche l'étoile au chariot, eh bien, c'est bien la croix. Dans cette opposition-là, la caractéristique pour la personne, c'est que quand elle éprouvera de l'enthousiasme et que cet enthousiasme lui donnera beaucoup d'appétit pour les choses qui sont de cet enthousiasme, de son domaine, quand elle en aura l'appétit, quand elle aura de la foi, puisque l'enthousiasme et la foi sont très semblables, lorsqu'elle aura la foi d'aller la chercher, ou de la vivre, ou de l'avoir verrouillée, pas avoir, mais de l'avoir, de la comprendre, de l'accepter, eh bien, on peut être sûr que puisque Saturne est opposé, cet enthousiasme aura de la peine. Il ne pourra pas au début s'aligner sur le principe de proportion. Car la proportion, c'est Saturne. Le principe d'équilibre et le principe de proportion sont intimement liés. Ça se conçoit. Or, Saturne insiste sur la proportion. Il faut que l'énergie soit toujours proportionnée à ce qu'elle doit mener. Pourquoi l'énergie? Parce que, mais Saturne dit pardon, parce que n'est pas une réponse. Pourquoi? C'est pour quelque chose. Ça a un but pratique immédiat. Saturne insiste sur l'immédiat. Saturne, il est là, il est devant vous, il dit c'est le devoir, c'est la tâche, c'est l'utile, vous n'en sortez pas. Jupiter ne demanderait pas mieux que mieux comme un aigle planer. Planer, dit Saturne, c'est très bien à condition que tu m'entraînes avec toi. Dans l'opposition, on n'entraîne pas Saturne avec Jupiter. Jupiter part beaucoup plus fréquemment que Saturne, impose sa mobilité, son mouvement, son activité bien plus fréquemment que Saturne pour plusieurs raisons. Son cycle étant plus de deux fois celui de Saturne. Donc, il touche les planètes beaucoup plus souvent, et heureusement, il y a une loi d'ailleurs cosmique pour ça, mais heureusement, parce que nous sentons nos enthousiasmes d'une façon, en quelque sorte, intime, intérieure, qui nous porte, car quelquefois, notre Saturne, autrement, serait bien, bien lourd, et en tout cas, terriblement monotone. Entre notre enthousiasme et notre sentiment du devoir, il y a des corrélations. Et il faut bien que, pour que nous puissions être à la hauteur de vraiment être des athlètes dans le domaine de nos devoirs, il faut que nous ayons quand même le sang et les muscles et la langue et le goût de vivre qui vient de Jupiter. Or, dans l'opposition Jupiter-Saturne, la personne va devoir faire certaines expériences disproportionnées à l'amour, disproportionnées au programme général de sa vie. Et au bout d'un certain temps, c'est le Saturne qui va rappeler à cette personne qu'il faut amener cette énergie d'enthousiasme dans un certain cadre. Cette opposition n'est pas une chose, on peut dire, dangereuse. En soi, elle ne l'est pas. Je ne regrette pas de l'avoir dans un thème. Parce que, d'abord, c'est l'opposition. Et l'opposition, ça nous dit, cette âme-là embrasse deux choses. Elle va aussi loin qu'elle peut sur la gauche. Elle va aussi loin qu'elle peut sur la droite. Et elle veut les embrasser, toutes les deux. Et par conséquent, la crucifixion, n'est-ce pas, est considérable. Tenir à bras tendus deux puissances comme Jupiter et Saturne, et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce sont les puissances les plus hautes du moi individuel, la personnalité purement individuelle. C'est vraiment partie de notre petite autonomie à nous-mêmes. C'est encore de nous-mêmes Saturne et Jupiter. Au-delà, Uranus et au-delà, il y a autre chose à côté de nous-mêmes, toujours en jeu. Mais avec Jupiter et Saturne, nous sommes encore dans notre propre domaine rigoureusement. Alors, les avoir en opposition, c'est donc dire que nous allons embrasser des champs d'expérience qui sont des champs d'emballement, des champs d'enthousiasme, des champs de froid, des champs de générosité même, et de générosité évidemment démesurée, puisqu'il y a opposition avec Saturne, qui est la mesure. Et puis que d'autres moments, on sera bien obligé de laisser de côté, à regret, mais ça sera imposé, tout ce monde-là pour nous occuper de nos devoirs. Nous aurons tout à coup, devant nos yeux, des obligations qui nous paraîtront d'autant plus lourdes que les enthousiasmes nous avaient menés loin. Il faudra bien pour un temps s'occuper en quelque sorte exclusivement de nos devoirs. Voilà l'idée de l'opposition, c'est que tour à tour la planète a des droits sur nous. Tour à tour, elle ne les prend pas ses droits en conjugaison. Dans le trigone, c'est une conjugaison des droits. Dans le sextile surtout, c'est une merveilleuse combinaison la plus équilibrée des combinaisons des droits, des deux forces. Sextile Jupiter-Saturne, quel merveilleux équilibre, quelle raisonnabilité de la personne, jamais trop raisonnable, mais jamais aussi en défaut d'être raisonnable. L'enthousiasme et le sens de la mesure, comme ça, est bien attelé ensemble. Voilà le sextile. Et dans le trigone, quand c'est Jupiter qui l'envoie, ce trigone, à Saturne, comme l'enthousiasme se coule naturellement dans la forme que lui donne Saturne. Comme ça se fait agréablement, comme l'enthousiasme va se mettre naturellement dans le harnais des choses, des obligations de la personne, des charges de la personne, des devoirs, des responsabilités, du statut, des synonymes de responsabilité. L'enthousiasme soutient la responsabilité. Ah, vous vous sentez responsable de telle chose, eh bien vos enthousiasmes sont emballés pour la chose que vous avez reconnue comme votre responsabilité. Voilà le trigone. Et si au contraire c'est Saturne qui envoie le trigone à Jupiter, eh bien le devoir, la responsabilité est en train de bénir constamment vos enthousiasmes et leur dit « Mais nous sommes parfaitement d'accord avec vous et vous verrez que vos enthousiasmes ne sont jamais démesurés parce que quand Saturne fait un trigone à une planète, l'autre planète n'est pas en elle-même en état d'être démesurée. Il faudrait que cette planète eût un terrible carré. » Une terrible autre chose dans sa position pour quelquefois sortir de ce rayon merveilleux qui est le trigone Saturne à Jupiter ou Jupiter à Saturne. Alors dans l'opposition, vous voyez que c'est l'alternative. Alors, au commencement de la vie, disons, jusque, disons en principe, si vous en voulez, grosso modo, car il ne faut jamais oublier toutes les autres planètes du thème, et la disposition du thème à gauche, à droite, en haut, en bas, avec le jeu des progressions également, on peut dire que jusqu'à la, au milieu du second cycle de Saturne, Saturne fait un cycle en 28-29 ans, son premier cycle, c'est un premier cycle de maturation, le deuxième cycle finit autour de la 56e année, 57e année, 58e année, c'est le deuxième cycle de maturation, c'est le cycle où s'affirme le plus authentiquement l'autonomie individuelle, la partie vraiment, on dirait la molécule cosmique qui est un seul homme. La forme moléculaire de l'homme va se faire sentir très nettement, ce qui permet à une grappe de raisin d'être un raisin, c'est-à-dire d'avoir une couverture délicate pour le jus intérieur, mais cette forme saturnienne, eh bien, au deuxième cycle, elle va être déjà très marquée, et si elle ne l'est pas très marquée au deuxième cycle, elle ne le sera jamais dans la troisième. Alors, on peut dire que dans le deuxième cycle de Saturne, il y a eu la synthèse, alors, entre l'alternance jupitérienne et celle de Saturne. On n'est jamais trop porté sur le Saturne, et on n'est jamais trop porté sur le Jupiter. La déchirure momentanée, le passage brutal presque de l'enthousiasme au devoir, qui n'a pas d'enthousiasme, et à l'enthousiasme qui ne connaît pas le devoir, qui ne connaît pas la responsabilité, qui se sent désengagé, délié, graduellement la synthèse se fait. Car en somme, c'est à quoi cette situation de l'opposition vise. Et alors il faut bien dire que la personne qui a cette opposition, pas si elle vit, disons, 50, 60, 70 ans, 80 ans, cette personne va avoir une certaine largeur de vue. Les oppositions amènent de l'ampleur dans la vie. Et tout se paye. On paye l'ampleur de la vie. Elle se paye. Il y a des vies qui sont entièrement faites dans des petits rails très étroits, sur des voies étroites, avec des œillères. Mon Dieu, ces œillères protègent ces gens. Ils n'ont pas beaucoup à payer. Mais en somme, leur vie, c'est une vie extrêmement restreinte. Ils ne le savent même pas, puisqu'ils sont là. Et ils ne se déplacent pas à côté d'eux-mêmes pour se mesurer avec d'autres, se dire, mon Dieu, j'ai quelque chose, je n'ai pas quelque chose que l'autre a. Mais non, ils sont constitués comme ça. Mais c'est une vie monotone, c'est une vie sans horizon, c'est une vie sans, par conséquent, les grandes sympathies et les grandes responsabilités. Ils ont les responsabilités, oui d'accord, ils ont les sympathies, d'accord, mais tout ça, c'est très, disons le mot, médiocre. Mais quand vous avez l'opposition Jupiter-Saturne, ou alors vous brassez votre sens social, saturnien d'une part, jupitérien de l'autre, le sens cosmique du Jupiter, le sens social du Saturne, le rapport entre la société et la religion, société-Saturne, religion-Jupiter, la relation entre le cadre dans lequel il faut absolument que l'on vive en société, et le cadre alors plus métaphysique que représente Jupiter, s'associe graduellement. Alors, le cadre religieux est plus ample, le cadre des obligations sociales est aussi ample. Donc, l'opposition, voilà ce que j'ai à en dire moi-même, ça représente toujours un programme d'ampleur. Il n'y a rien d'étroit. Il n'y a rien d'étroit. On ne voit pas, par exemple, dans l'opposition assez fréquente de Vénus à Mars, il n'y a rien d'étroit là-dedans. Il y a une certaine étroitesse indéniable dans la conjonction Vénus-Mars. Ah, c'est la passion, c'est l'intensité, c'est l'immédiat. C'est le moment qui compte. Et tout est jeté dedans de ces deux énergies. Mais quand Mars et Vénus sont en opposition, on voit très bien que la personne s'occupe tout le temps de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle ne la finit jamais. Puisque Mars est en opposition à Vénus, que pour finir une chose bien, il faut avoir une bonne Vénus. Alors Mars commence quelque chose, Mars, Vénus, opposition, on n'arrive jamais à finir ce qu'on a commencé, on commence quelque chose d'autre et on finit la première chose après. C'est comme le peintre qui a 20 toiles à vous montrer dans son studio, Mais ce sont 20 toiles qui ne sont pas finies. Alors graduellement, il retourne à ses toiles et dit, tiens, c'est pas encore fini en effet ça, on va y ajouter quelque chose. Et graduellement, il est fini, mais c'est très long. C'est très long. Mais vous voyez qu'il a quand même commencé 20 toiles. Vous voyez que quand même, il est entré dans 20 champs différents d'émotions artistiques, de sensibilité, d'intelligence artistique. Il a fait quelque chose de vaste, d'arrondi, que la conjonction Vénus-Mars ne lui aurait pas donné. À moins que d'autres aspects ne lui permettent, mais en soit pas. Alors, prenons les puissances encore plus importantes que Vénus et Mars, prenons Saturne et Jupiter, et vous voyez ce que cette opposition va nous donner comme richesse de la personnalité. En outre, il faut bien dire que lorsque, comme nous savons, que Saturne est le maître du Capricorne, et qu'il en est le propriétaire de cette maison, si c'est Jupiter qui, en ce moment-ci, vagabonde, qui a maintenant, comment dirais-je, l'oreille du thème, alors c'est la maison dont il a la maîtrise, c'est le Sagittaire, qui va en bénéficier. Alors nous voyons tour à tour le Sagittaire dans le thème prendre des attitudes, tisser une tapisserie jupitérienne, mais alors attention, il tisse une tapisserie jupitérienne fortement, négligent de la mesure de Saturne, qui veut dire que plus tard, il faudra qu'il revienne à cette tapisserie et qu'il mette du Saturne. S'il est opposé à des planètes moindres que lui, c'est-à-dire Saturne est plus fort que lui, Saturne est plus haut que lui, par conséquent, dans l'opposition Jupiter-Saturne, il faut que finalement, ce soit Jupiter qui se rallie sur l'axe saturnien, si l'on peut dire. Et encore, c'est d'avoir de très près. Car Jupiter, c'est une force qui a des significations internes qui dépassent celles que je viens de donner. C'est une force très mystérieuse, la puissance de Jupiter, très mystérieuse. Et ce n'est pas pour rien que les anciens, enfin en tout cas la mythologie grecque, pour ne pas aller plus haut, l'a appelé le roi du ciel. On n'a pas appelé Saturne le roi du ciel. Et pourtant Saturne est une planète plus lointaine, et l'on considère en général que plus la planète est lointaine, plus sa puissance réelle, plus sa grandeur dans la hiérarchie des dieux est considérable. Eh bien, il faut bien le dire qu'il y a une raison spéciale pour que Jupiter ait été appelé le roi, enfin le principal des dieux. Mais mettez-le en opposition à Vénus ou à Mars, par exemple. Mettez-le même en opposition au Soleil. Et il faut bien que ces planètes-là se soumettent à lui. Car dans l'opposition, c'est bien la synthèse, c'est entendu, mais dans la synthèse, la planète qui va faire la puissance de votre nature, qui va faire le plus gros effort, ça ne va pas être le Jupiter, ça va être la petite planète. Car dans vos thèmes, votre Soleil à vous, mais il est tout petit. Il est entendu que certaines de vos planètes ne sont pas plus grosses que lui. Mais il est tout petit, le Soleil. Et vous voyez bien que dans une opposition Jupiter-Soleil, c'est votre Soleil, c'est votre Jupiter, et vous voyez bien que vos enthousiasmes sont nécessairement quelque chose en vous-même, dans votre Soleil, qui mène le Soleil, et que ce n'est pas le Soleil qui mène l'enthousiasme. Vous sentez bien que vos enthousiasmes, c'est déjà un étendard, que vous avez dressé, un idéal, que vous avez dressé devant vous, vous et votre idéal, c'est le Soleil et Jupiter. Alors en opposition, vous avez votre idéal d'une part, vous de l'autre, et de temps en temps vous dites, eh bien moi ça me suffit d'être moi, j'ai pas besoin de cet idéal, oui, je sais, j'ai un idéal, oui, mais enfin j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, je suis sollicité ailleurs. Voilà l'opposition. Je suis fortement sollicité ailleurs. Et alors, graduellement, qui doit céder? C'est le Soleil. Parce que un Soleil sans enthousiasme, c'est une nullité. D'autre part, un enthousiasme sans un Soleil, c'est inconcevable, n'est-ce pas? Bien qu'un individu soit le sujet de l'enthousiasme, enfin, que lui-même soit celui qui en vit, possède et qu'il génère. C'est donc dans ce sens-là qu'on peut interpréter l'opposition de Jupiter au Soleil. Mars de même, Vénus de même, ces planètes-là doivent, l'action, l'impulsion martienne doit se faire finalement aligner sur le principe jupitérien. Et ce n'est pas Jupiter qui doit s'aligner sur Mars. L'enthousiasme ne s'aligne pas sur la volonté individuelle. C'est la volonté qui s'aligne sur l'enthousiasme. On voit les gens qui ont de la volonté, mais ne savent pas qu'en faire. Ils ne savent pas, ils n'ont aucun enthousiasme. Ils se demandent à quoi sert leur vie. Ils voudraient bien la clé à un idéal, ou à un enthousiasme, ou à un emballement, ou à un appétit de grandeur. Mais ils n'en ont pas. Ou enfin, ils l'ont tellement insuffisamment. Le soleil de nos thèmes, il ne demande pas à rester lui-même. Il demande à croître. Il est ceci qui veut devenir. Il est ceci qui veut devenir tout ça. Il est ceci qui veut devenir le tout. Il est une partie. Et c'est Jupiter qui lui dit, mais tu es une partie d'un tout. Alors en avant la musique. Mais alors maintenant, je prends Jupiter en opposition à une planète beaucoup plus grande que lui. Et je le prends en opposition à Uranus, dans le cycle de 84 ans. Vous voyez que c'est 7 fois le cycle de Jupiter lui-même. Alors, quand vous avez dans un thème Uranus, opposition Jupiter, ah ben alors là, vous avez une ampleur encore plus grande que l'opposition avec Saturne. Alors là, ça marche. Alors là, vous avez une personne extrêmement intéressante, toutes choses égales d'ailleurs. Parce qu'après tout, maintenant, nous avons une planète différente, d'un ordre différent. Cette planète, cette force uranienne, introduit dans la psyché de l'individu une psyché cosmique, une psyché plus exactement collective. C'est maintenant comme si le système solaire se trouvait accroché, lié à une galaxie soleil. C'est comme si un soleil, avec son monde, son univers, ses frontières, était maintenant relié à une constellation de soleil. Est lié organiquement à une constellation spécifique de soleil qui à son tour se lie à une constellation plus grande et encore une fois spécifique, toujours par analogie, de soleil et ainsi de suite. Et c'est ainsi que se fait l'organisation des mondes visibles et invisibles, soit dans la psychologie microscopique de l'homme, soit dans la psychologie macroscopique de l'univers lui-même. Alors voilà Uranus. Uranus, c'est une constellation de soleil. C'est un groupe de soleil, c'est un groupe de puissance solaire. C'est plusieurs soleils en un, c'est une sagesse intérieure. Uranus, c'est cette puissance de la collectivité à laquelle votre soleil et votre thème appartient. C'est cette puissance de la collectivité dans, de votre âme, cette collectivité psychique, ce que dans la pensée du grand analyste Jung, de Zurich s'appelle l'inconscient collectif, contrasté avec l'inconscient individuel, qui est souvent pas autre chose que le subconscient, bien entendu au-delà de lui, il y a l'inconscient personnel, mais dès qu'on arrive à quelque chose qui anime tout ça, qui introduit un élément nouveau dans cette vie-là, un élément inconnu et souvent surprenant, ce que l'on appelle, à proprement dit, le génie de l'individu, le génie propre, la chose qui, quand elle se met en branle en lui, affirme son indépendance et son non-conformisme s'il y a lieu, à son milieu. Voilà pourquoi on a appelé Uranus planète de la révolution. Eh bien, évidemment, parce que c'est un vin nouveau qu'on ne peut pas mettre dans une vieille outre. Alors, adieu la vieille outre, il en faut une nouvelle. Dans les thèmes qui ont la conjonction Saturne-Uranus, c'est l'interdiction de changer d'outre. Ce sont les thèmes qui ont lieu en 1894, 94, 95, 95, par là, nous avons eu la fameuse conjonction d'Uranus et de Saturne dans le Scorpion, et on voit bien que ces gens-là, eh bien, il n'y a pas moyen de faire venir le vin nouveau d'Uranus dans la forme saturnienne, elle est là, elle bloque le passage, et vous avez ces formidables inhibitions de cette génération-là, qui a d'ailleurs été la principale clientèle de la psychanalyse de Freud. 8 degrés au moins. Et d'autant plus fort, naturellement, que la conjonction est exacte. Genre, plus exact. Mais alors, je ne parle pas de Saturne, je parle de Jupiter. Alors, voyez-vous maintenant avec Uranus. Uranus, c'est la fée qui vient à minuit à Cendrillon et qui lui dit « Tu n'es pas une souillon, tu n'es pas une orpheline, tu es la fille d'un roi, tu vas au bal et voici ton accoutrement, tes fameuses pantoufles, ta couronne, ton manteau. » Elle lui donne le manteau d'une petite reine et en avant. Et Cendrillon, métamorphosé, est la principale au bal. Qui fait ça dans la vie de Cendrillon? Pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire délicieuse de Cendrillon? Pourquoi? Parce qu'il y a Uranus dans la nature de l'homme. Il y a Uranus dans la nature de l'homme. La fée, elle vient, on ne l'attend pas. Oh non, bien entendu. On ne l'attend pas, c'est la surprise. Et elle vient à minuit, une heure très ésotérique. Elle ne vient pas à midi, oh non, elle vient à minuit. Elle vient à minuit parce qu'elle vient à travers l'âme de Cendrillon. À midi, elle ne pouvait pas. À Cendrillon, elle serait venue de face. Elle serait venue comme quelqu'un d'autre. Elle n'aurait pas eu les atouts. Ils sont énormes quand on vient par derrière, c'est-à-dire par le côté féminin de la nature. Alors Uranus entre par le côté féminin de la nature à minuit, et tout d'un coup, Cendrillon se sent pousser des ailes, et se sent une peau nouvelle. C'est une métamorphose. Vous comprenez l'état dans lequel se sont trouvés ses parents soi-disant adoptifs, ces fameux paysans, le lendemain matin. Il n'y avait plus de Cendrillon, il n'y avait plus de souillon pour les servir. Alors vous comprenez, ils ont fait une drôle de tête. Et ceux-là, s'ils connaissaient une certaine astrologie, se sont dit « Ah, c'est Uranus qui nous a fait ça ?» Eh bien, c'est un sacré cochon, n'est-ce pas? Quelque chose d'approchant. Nous n'en voulons rien d'Uranus, n'est-ce pas? Alors, ceux qui n'ont pas compris la psychologie des profondeurs, telle que nous l'a donnée, en tout cas aujourd'hui, admirablement l'école de Zurich, et certainement d'autres depuis, et peut-être avant, eh bien, ne comprendront pas du tout la signification d'Uranus. C'est celui, cette force allemande masculine, qui représente tout l'acquis de notre passé antérieur à cette vie, la condensation de toute la sagesse et de tous les contrats sociaux, le contrat entre les âmes, dont nous pouvons disposer dans les âmes de la collectivité, de l'invisible, comme du visible, le contrat de relations organiques qui ont été constituées dans les vies antérieures entre notre âme et d'autres âmes qui sont nos âmes égales, ces contrats sont liés tous, noués dans la planète Uranus, et dans la mesure où ce contrat est appelé à entrer en vigueur durant l'incarnation, eh bien la planète Uranus en déballe différents chapitres. Autrement dit, elle mobilise une partie des contrats collectifs, car c'est un contrat collectif, Uranus, dont vous êtes, vous, Soleil particulier, un des bénéficiaires et aussi un des mandataires et aussi l'un des obligataires. Car ce contrat collectif, s'il vous apporte des protections, s'il vous apporte des richesses, s'il vous qualifie tout de suite comme appartenant à une société plus grande peut-être que celle dans laquelle vous êtes né. D'autre part, elle exige de vous quelque chose. Et elle dit à tout seigneur, tout devoir, non pas seulement tout honneur, mais toute responsabilité. Et vous voilà planté de nouvelles responsabilités, parce que cette fois-ci, vous qui n'avez jamais pensé que vous aviez une mission dans la vie, tout d'un coup vous découvrez que vous en avez une. C'est le contrat collectif représenté par Uranus qui s'introduit dans le thème individuel qui, lui, s'arrête nettement à Jupiter, à Saturne. Or, voyez donc maintenant que nous avons l'opposition Jupiter-Uranus dans un thème. Alors nous montons d'un cran dans cette... Dans la... Ce n'est pas le mot, mais je vais le donner quand même, parce qu'enfin, il est frappant, il est très simple, dans la compote. Ou compote, comme dit M. Stoffel, d'ailleurs qu'on dit en français compote et pas compote. Et pourtant, l'anglais dit compost pour dire la même chose. Du moment qu'il y a un S, probablement le français voulait vraiment avoir le circonflexe, et l'a probablement eu dans le passé, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, vous savez ce que j'entends, cette pâte, cette compote, disons, on en fait des confitures, paraît-il, une certaine confiture, c'est ça. Eh bien, les éléments la substance psychique des heures, des jours, qui est naturellement faite d'un mélange extraordinaire de propriétés, d'éléments en nous. Lorsque c'est l'élément uranien, l'élément du contrat collectif qui se trouve à l'un pôle du thème, un pôle de la conscience, et qu'à l'autre pôle de la conscience se trouve la puissance d'emballement, la puissance d'enthousiasme et la puissance de foi, l'amour est bien tranquille. Cette personne est en train d'avoir dans les fonds d'elle-même, au fond d'elle-même, elle est en train d'avoir une activité considérable, parce que l'épée est en opposition, c'est très actif. Ça tire à U et à Dia, mais c'est très actif. Très actif. Et on sent que cette personne est en quelque sorte suspendue à une, comment dirais-je, suspendue à une corde toute spéciale, placée très haut, et que tout son corps manœuvre en fonction de cette corde. Lier le collectif à l'individuel, lier la puissance de la collectivité, de ce tout plus grand qui est Uranus, à l'enthousiasme de l'individu, et le lier non pas en conjonction, alors qui est une chose formidable, la conjonction des deux, mais alors en opposition, c'est donner une ampleur et c'est demander à cette personne de vivre une vie qui sera toujours axée sur cette opposition. Quoi qu'il arrive à la Vénus de la personne, au Mars de la personne, à la Lune de la personne, quoi qu'il arrive aux planètes mineures, et Dieu sait qu'il leur arrive constamment quelque chose, n'est-ce pas? Tout au fond, c'est toujours axé sur l'opposition Jupiter à Uranus. Ils sont là entre deux mondes. Le monde des enthousiasmes qu'ils sont capables de générer par eux-mêmes, et le monde qui est les enthousiasmes, qui est le fruit d'anciens enthousiasmes, qui les a dépassés, qui les comprend mieux que vous-même, et qui y ajoute une sagesse archétypique. La synthèse de ça finit par se faire aussi. Quand on veut déterminer d'ailleurs la fonction, la signification de l'opposition, donc ici nous restons sur le plan de Jupiter, il y a un moyen. Il y en a plusieurs, mais le plus simple de tous, c'est de prendre la planète la plus rapide, qui est ici Jupiter, et de l'amener au bout de 6 ans devant Uranus. Tous les 12 ans, Jupiter sera conjoint à Uranus, alors qu'une fois seulement à l'âge de 42 ans, Uranus sera conjoint à Jupiter. Alors, étudiez votre thème. Lorsque Jupiter sera en conjonction d'Uranus, tous les 12 ans, naturellement, la première conjonction aura lieu à 18 ans, puisqu'il faut 6 ans pour que Jupiter arrive à Uranus. Mais étudiez ça, et vous verrez les choses prodigieuses qui arrivent. Vous comprendrez mieux votre Jupiter, et surtout, vous aurez la révélation de votre Uranus. Car, pour comprendre réellement, autant qu'on peut comprendre, pour cerner la réalité d'une de nos planètes, l'opposition est une des plus merveilleuses opération, une plus merveilleuse épreuve. Car, forcément, l'autre planète, quand elle est obligée de venir à la conjonction de son opposition, et je précise maintenant, c'est Jupiter-Uranus, eh bien, à ce moment-là, Uranus va dire à Jupiter, qui est son opposant, eh bien, dis donc, toi, mon cher, toi et moi, nous sommes supposés faire une synthèse, eh bien, c'est le moment de l'essayer, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, c'est le grand coup. Nous y allons bien ensemble, n'est-ce pas? Tu es bien d'accord? Alors écoute, je vais te dire un peu qui je suis, moi, Uranus. Alors tu comprends mon petit Jupiter, qui m'oppose en principe. Tu m'opposes, c'est simplement parce que tu vas embrasser davantage. Tu vas me permettre d'ailleurs d'en amener davantage à moi. Évidemment, tu prends ton temps. Et le petit être qui t'anime, et que tu animes, surtout que toi tu animes, eh bien, il faudra qu'entre-temps, il fasse, se tourne quelquefois les pouces, mène une petite vie, ça fait secondaire. Mais enfin, tu es là devant moi, tu transites devant moi et moi. Car les transits libèrent les puissances intérieures du thème et ne leur apportent rien. Ce n'est pas une infusion du transit de Jupiter dans Uranus, jamais. C'est Uranus qui injecte dans la planète transitante, car la planète transitante lui a ouvert la porte. Alors la voix d'Uranus, la puissance uranienne, entre dans le Jupiter. Du même coup,
Vous savez un peu ce qu'est Uranus, vous savez un peu mieux ce que c'est que votre Jupiter, mais surtout votre Uranus, et du même coup, vous allez voir que le Verseau dans votre planète, dans votre thème, le signe du Verseau, la maison du Verseau, va s'ouvrir davantage, puisque Uranus est libéré, d'un degré en tout cas, de sa puissance propre uranienne, donc le Verseau va immédiatement le sentir, et vous aurez un changement de tonalité, de couleur, de vie, qualité de vie dans la maison qui a le Verseau sur la pointe. Et d'autre part, surtout ça, car c'est dans le transit, quand une planète transite, une planète natale, c'est la maison natale de la planète qui est du thème radical, donc natal, c'est cette maison-là qui va en profiter beaucoup plus que la maison qui est commandée par la planète qui transite sur Uranus. Autrement dit, Jupiter transitant sur l'Uranus radical, l'Uranus natal, va instantanément faire sentir sa conjonction en ouvrant la porte d'Uranus, qui va lui-même, maintenant, avoir une nouvelle conscience, ou donner à l'individu une nouvelle conscience, ou que signifie chez lui le Verseau. Mais d'autre part, le Sagittaire dans le thème, la planète natale Jupiter et son Sagittaire, il en aura un peu le bénéfice, et par indirection. Je ne crois pas qu'il l'aura directement, simplement par le transit de Jupiter sur Uranus. Le Sagittaire lui-même, de l'autre côté, ne l'aura que par indirectement. Mais, ça va se sentir alors dans la révolution solaire. Ça va se sentir dans les systèmes, les directions, les systèmes de progression du thème. C'est là où le Jupiter va recevoir toute une série de vibrations, si l'on veut employer ce terme, une série nouvelle. Forcément, Jupiter a reçu une leçon. Il lui a ouvert la porte à l'autre, mais à l'autre, lui en a donné. Alors forcément, Jupiter le retient. Car ce qui est merveilleux, n'est-ce pas, quand un transit passe sur un transit, quand un transit passe sur une natale, quand un transit passe sur une progressée, soyez tranquille, ce transit n'est jamais après tout à fait le même. Ce n'est pas logique, il ne peut pas l'être. Cette puissance en vous a été éduquée, vivifiée, éclairée, en tout cas partiellement, et selon la fonction de la planète qu'elle a conjointe. Voilà l'opposition de Jupiter-Uranus. Et alors maintenant, prenons l'opposition Jupiter-Neptune. Alors, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus facile, vous le savez bien, d'interpréter les oppositions mineures, je n'y reviens pas. Mais prenons ces planètes du collectif. Alors, si Uranus est un grand foyer de conscience collective à laquelle appartient votre conscience individuelle, si c'est un contrat social, Uranus, Neptune en est un autre, encore plus grand. Avant celui-là, il est en train de s'élargir. Car Neptune n'est pas autre chose en réalité que Uranus s'élargissant, croissant. Car en réalité, votre Uranus c'est votre ancien Neptune, et votre Neptune c'est votre futur Uranus. C'est logique. Entre votre Uranus et votre Neptune, il y a un lien organique, attention, entre société collective, entre société, donc entre collectivité, dont Neptune, la seconde, est plus lointaine, est la plus grande des deux. Étant la plus grande des deux, dans un certain sens, elle n'est pas aussi atteignable. Elle est encore à partiellement constituée. Elle est là comme plan architectural. Elle est là comme réalité tangible également. Elle fait partie. Voyez bien que dans votre thème, la société qui est représentée par Uranus, celle qui est représentée par Neptune, c'est la même société. Mais celle de Neptune est encore plus grande que celle d'Uranus. Et les deux jouent ensemble pour le plus grand bien de vous-même qui faites partie de leur contrat. Ils sont vraiment responsables par contrat du cheminement de votre propre individualité et de votre propre âme. Et dans les mesures des lois, les lois qui régissent le mystérieux, la façon dont une âme peut croître, les lois qui nous échappent à tous, dont nous ne pouvons connaître que les linéaments par l'expérience des vécus, dans la grandeur de ces lois, ce sont ces deux forces de l'inconscient collectif, donc de l'âme du monde et de l'âme de notre espèce et de l'âme de notre famille spirituelle, ce sont elles qui ont la direction réelle de nos affaires particulières. Alors l'opposition Neptune, Jupiter, je ne veux pas faire l'analyse maintenant trop grande de Neptune, je suis dans l'étude des aspects de Jupiter, mais il faut bien, quand on fait une opposition pareille, et quand on veut vraiment faire savoir ce que vaut Jupiter dans une opposition à ces planètes collectives, il faut quand même recommencer un peu la définition. On ne la fera jamais assez. Or, Neptune, c'est très simple, ça représente le Graal, c'est la coupe du consacré du divin, c'est ce que nous pouvons boire du sang divin de l'univers, de l'unité, de toutes les unités dont l'univers est la manifestation, si l'on veut. C'est dans le christianisme, n'est-ce pas, c'est le cœur, c'est le sang de Dieu. Peu importe l'imagerie, le fait est que c'est en nous ce qui a reconnu l'essence du monde. L'unité et l'unicité est l'essence du monde. C'est l'obéissance au seul prince, au seul, à une seule loi et à un seul esprit. Neptune, dans le thème, donne des expériences souvent aux gens, certaines natures, la vision ou le rêve d'avoir vu la Sainte Vierge. C'est très naturel parce que la Sainte Vierge est un archétype neptunien, strictement neptunien. Elle est la représentation humaine de cette immense fonction cosmique qui se retrouve dans l'âme de chaque individu sous la forme de Neptune. La Lune, conjoint Neptune, nous donnera ça très souvent dans des thèmes évolués. Enfin, dans une certaine évolution. Alors, si vous avez ce prince de la mystique, de cette porte du monde divin, du monde alors vraiment transcendant qu'est Neptune, si vous avez l'Uranus qui vous a, en somme, pris par la main et vous a mené par lui, lui étant Parsival, vous a mené, vous a guidé vers ce sanctuaire spécial qui est Neptune. Maintenant, mettez Jupiter en opposition au sanctuaire. Alors là, vous avez le prince même de la religion, la mystique, l'expérience mystique qui est neptunienne, alors elle. Et vous avez l'enthousiasme qui est en opposition à l'expérience mystique. Et quand on pense que Jupiter travaille toujours pour l'exaltation de Neptune dans le Sagittaire, c'est pas banal comme opposition. Car voici une planète, c'est comme Jupiter qui serait en opposition à la Lune. Jupiter opposition à la Lune, comme il est exalté lui dans le signe du Cancer, c'est-à-dire qu'il a fini sa course dans le signe du Cancer, et le voilà en opposition à la Lune. Eh bien, ce n'est pas banal, n'est-ce pas, d'avoir eu l'opposition à Jupiter. C'est-à-dire un tas de choses. C'est pas le temps d'y entrer ce soir. Mais maintenant, nous parlons Jupiter opposition à Neptune. Alors, on voit très bien la personne. Les enthousiasmes, puisqu'ils sont formellement dirigés dans le sens contraire au chemin de sa mysticité, à l'expérience mystique proprement dite chez elle, l'enthousiasme va se porter au pôle opposé de l'expérience mystique. Alors, qu'est-ce que peut être le pôle opposé à l'expérience mystique maintenant? Ça va être le pôle des enthousiasmes humains. Des choses excellentes, des choses très nécessaires. Ça ne va pas du tout être un pôle démoniaque ou grand Dieu, non, ou jamais de la vie. Ça va simplement être qu'on a des enthousiasmes pour les choses qui, par rapport à Neptune, sont beaucoup plus proches. On est d'ailleurs, avec Jupiter, on est toujours efficient. Alors on a une certaine, on se dit, ah, c'est très joli, la haute mystique, c'est merveilleux, je sais qu'elle existe. Je n'en doute pas, j'en ai fait l'expérience seulement. Je n'ai pas assez fait souvent, tandis que par contre, j'ai fait énormément d'expériences de l'enthousiasme. Je sais être généreux, j'adore être généreux, j'adore faire ceci et ça, j'adore m'emballer, j'adore admirer. Mais on admirera tout et on s'emballera pour tout ce qui n'est pas la mystique, proprement dit. Sauf au moment où ce sera Jupiter qui viendra par transit à la conjonction de Neptune. Naturellement, Neptune dira à Jupiter, dis donc mon cher, tu sais très bien qu'au fond, tu travailles toujours pour moi. Alors, si tu es de l'autre côté de moi, c'est parce que cet être-là, il fallait lui ouvrir un champ immense d'enthousiasme pour amener tout ça au pied du ciel. Donc, ça fait dans un thème quelque chose de très intéressant. Donne une personnalité extrêmement étoffée, extrêmement riche, disons, musicalement, dans les arts, très étoffée. D'abord, Jupiter, opposition Neptune. Et là, je vois que le temps passe, il est 10h20, et j'espère que je ne vous ai pas fatigué dans cette salle un peu surchauffée, en 1h10 que je parle déjà ici. Alors, je continue un instant encore. Ah oui. Qu'avons-nous à faire dans l'astrologie? À quoi avons-nous à faire? Et qui dit qu'avons-nous à faire dans l'astrologie? À quoi avons-nous à faire? Ça veut dire à quoi avons-nous à faire dans la vie? Qu'est-ce que nous faisons dans la vie? Avec quoi faisons-nous n'importe quoi dans la vie et à quoi ça sert? Eh bien, c'est encore le schéma astrologique qui est le plus éloquent là-dessus. Le schéma astrologique nous dit qu'il y a un arbre. Et la croix, c'est le symbole de l'arbre. Alors, il y a un arbre. Alors, voilà les branches supérieures, les voilà. C'est un arbre. Et la croix, c'est le symbole de l'arbre. Représente l'arbre. L'arbre est une croix, la croix est un arbre. Porter l'arbre, c'est porter la croix. Plus exactement, porter la croix, c'est être un arbre. C'est être un arbre. Alors vous voyez, un arbre, ça grandit, ça pousse, ça croît. Voilà Jupiter en jeu. Alors vous voyez que ce qui a permis ces branchages d'un arbre, c'est-à-dire les branchages de vos maisons astrologiques, c'est la poussée jupitérienne. C'est le besoin de toujours s'étendre d'un tout qui serait pas plus grand que ça, à un tout plus grand, puis à un tout encore plus grand. Et d'un tout qui n'est qu'une partie, à un tout qui n'est qu'une partie, et à un tout qui est définitif. C'est la poussée à tout ça. Les bras de la croix n'existeraient pas sans la poussée jupitérienne et n'auraient pas la forme spécifique qu'elles ont. Ils ont ces bras en Saturne. Saturne leur donne leur forme spécifique et Jupiter les anime, car ce sont des branches d'un arbre. Et vous voyez que dans ces conditions, prenant donc de nouveau l'idée de la branche, vous voyez, chers amis, que le grand mystère de la planète que vous avez dans votre thème, mais ce n'est pas autre chose qu'une indication purement algébrique que nous allons mettre, disons, ici, par là, Jupiter pour la 9e maison, qui serait le Sagittaire, eh bien, on met Jupiter à côté de cette maison-là, et l'on dit, ah bien, voilà, le Sagittaire est né par Jupiter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut simplement dire que ce Jupiter, c'est une fiche que le jardinier qui est chargé d'entretenir une pépinière de jeunes arbres, de jeunes sapins, il a indiqué, en suivant très bien la croissance de ces petits sapins, il a dit, tiens, cette branche-là, elle vaut exactement la valeur Jupiter, parce qu'elle a une façon